Vous écoutez France Culture.
Suite, fin et point d'orgue d'une semaine qu'en partenariat avec la République des idées, les nouveaux chemins de la connaissance auront consacré à la question délicate de la rénovation démocratique. Après Jacques Rancière et la haine de la démocratie, Claude Mossé et Jean Bollack venus vous parler de l'Athènes de Périclès, Nicolas Vambremersch, mieux connu sous le nom de Versac, et Dominique Cardon venu débattre des conséquences d'Internet sur notre démocratie quotidienne, et Loïc Blondiot venu défendre avec éloquence l'idée de démocratie participative, c'est en direct de la Maison de la Culture de Grenoble et en compagnie de Claude Lefort et de Pierre Rosanvallon, rien de moins, que nous allons inachever ce parcours. Ceux d'entre vous, chers auditeurs, chers publics, qui ne connaissent pas encore le travail de Claude Lefort, doivent savoir, et je le dis devant lui, que Claude Lefort est incontestablement l'un de nos meilleurs penseurs politiques, l'élève de Maurice Merleau-Ponty et le maître de Marcel Gaucher, et qu'à ce titre, comme au titre de tout ce qu'il a écrit, c'est un privilège et une joie de l'accueillir au Nouveau Chemin, car il faut inlassablement rendre hommage, lire et relire ceux qui ont fait l'effort de penser pour vous les conditions d'existence du pire des régimes à l'exception de tous les autres. Quant au professeur au Collège de France, Pierre Rosanvallon, que nous accueillons avec le même plaisir, outre qu'il est entre autres l'auteur récent de « La légitimité démocratique », un essai paru au Seuil en septembre 2008 et dont nous allons un peu parler ici, Pierre Rosanvallon est également l'animateur de la République des idées qui organise ces 3 jours de rencontres et de réflexions à Grenoble autour de la rénovation démocratique. J'ai renoncé à l'image d'une démocratie idéale. Je vois la démocratie comme un régime inachevé. Cet inachèvement est même constitutif de la vie démocratique, dans la mesure où il montre sa capacité à accueillir le conflit en faisant droit à l'indétermination du social. Bonjour Claude Lefort.
Bonjour,
un grand bienvenue sur France Culture, au Nouveau Chemin de la Connaissance. C'est avec vous et Pierre Rosanvallon qu'on termine cette semaine consacrée à la rénovation démocratique. Claude Lefort, qu'entendez-vous ? On va essayer d'être un tout petit peu pédagogue, on reste à peu près un quart d'heure avec vous, mais essayons d'être un tout petit peu pédagogue pour marquer les grandes lignes de votre système ou de votre anti-système de pensée. Qu'entendez-vous par démocratie comme régime essentiellement inachevé ?
Je ne suis pas sûr d'avoir employé le terme de régime inachevé.
Ce que j'ai, on vous l'attribue en tout cas.
Ce que j'ai voulu souligner plutôt, c'est que la démocratie ne pouvait pas se réduire à un régime au sens conventionnel du terme. La souveraineté du peuple, suffrage universel, représentation, etc., égalité des droits, et que c'était une véritable forme de société. Alors là, de ce point de vue, je peux vous dire, puisque vous m'interrogez, quelle est la singularité de la démocratie ? Sa singularité, me semble-t-il, c'est que c'est une société qui est ouverte à la pluralité des conditions. Le terme d'égalité des conditions de Tocqueville est bien connu. Mais en fait, il s'agit de quelque chose d'un petit peu différent. Il s'agit d'un nouveau type, d'un nouveau mode de sociabilité qui fait que chacun est en relation, sinon directe, du moins chacun est en relation avec tous. Que l'information circule, que la connaissance circule, que la richesse, bien qu'elle... disons, soit à l'origine d'une opposition, voire pendant, peut-on dire, ou pouvait-on dire, d'une différence de classe, néanmoins, reste quelque chose qui ne sépare pas. Il n'y a pas dans la démocratie d'un côté les grands et d'autre côté le peuple.
En revanche, il y a d'un côté l'État et de l'autre la société. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'un côté l'État et de l'autre la société ? Est-ce qu'il y a séparation entre l'État et la société, contrairement à ce que vous dites, par exemple, des régimes totalitaires ?
Bien sûr, l'État est sans doute très puissant. C'est une des marques d'origine de la démocratie, mais aucun rapport entre le régime totalitaire, qui, je crois d'ailleurs, nous éclaire, en tout cas moi, m'a éclairé, parce que c'est la critique du totalitarisme qui m'a renvoyé à la démocratie. Ici, l'État a ses limites. Ici, il y a effectivement une société civile, un espace public, une circulation des informations, disons une légitimité de la différence des opinions. J'irai plus loin. Il y a une dimension du conflit qui est absolument nécessaire à la démocratie. Et c'est cette société qui est toujours, d'une certaine façon, en effervescence, qui n'est jamais reposée. Ce qui fait d'ailleurs qu'elle est l'objet de critiques. Il y a une insatisfaction, parfois fort justifiée, à l'égard, disons, du gouvernement, de la politique menée, mais c'est une société qui, je dis, accueille le conflit et qui, en même temps, est susceptible de se transformer parce qu'elle fait place à des revendications. Et il n'y a qu'à voir ce qu'a été la condition sociale il y a un siècle ou il y a seulement 50 ans ou 30 ans pour s'apercevoir que c'est une société qui est constamment en développement, qui doit l'être. Et j'avais écrit, il y a déjà longtemps de ça, presque 30 ans, un livre qui s'intitulait « L'invention démocratique ». Donc je suis particulièrement heureux d'être ici où il s'agit de réinventer la démocratie. C'est le titre de cette rencontre. Parce que la démocratie, elle est vouée à l'invention.
En somme, la démocratie est comme un vélo. Si on s'arrête de pédaler, elle tombe.
C'est une image.
Est-ce que vous souscrivez à cette métaphore ?
Eh bien, pourquoi pas.
Bon, alors, très bien. Revenons un instant. Alors, il y a deux choses. Vous avez dit que c'était votre analyse du totalitarisme, Claude Lefort, qui vous avait conduit à penser la démocratie. On pourrait prendre le problème de deux façons. On pourrait à la fois travailler conceptuellement sur la façon dont votre analyse du totalitarisme vous a conduit à penser la démocratie comme vous le faites. On pourrait aussi passer par le biais de la biographie, notamment l'affaire Kravchenko. Je vous propose qu'on fasse les deux, mais avant cela, un tout petit point quand même, très important. Vous avez parlé de l'argent tout à l'heure. Vous n'êtes pas de ceux qui considèrent, comme le considérait François Furet, par exemple, regretté François Furet, ou Raymond Aron, ou même d'une certaine façon Alain Badiou d'ailleurs, vous n'êtes pas de ceux qui considèrent que démocratie et capitalisme sont indissociables, sont indissolublement liés au motif que la préservation de la liberté implique tout simplement la liberté d'entreprendre comme la liberté d'expression. Vous ne considérez pas que les deux soient absolument indissociables, et ce point-là me semble très important.
J'ai une difficulté à vous répondre. Car je ne vois pas de situation dans laquelle il puisse y avoir, s'établir une démocratie affranchie de la lutte des intérêts, lutte collective des intérêts, d'un certain mode de production. Parce que
c'est l'objection que j'allais vous faire, oui.
Oui, bon, parler des intérêts en général, il y a un mode de production qui, autrement qu'autrefois d'ailleurs, parce qu'autrefois, il y avait, on peut dire, une polarisation de classe. Aujourd'hui, l'évolution de la technique a changé beaucoup la figure, disons, de la société à se placer d'un seul point de vue économique. Mais en réalité, je vois mal comment la démocratie pourrait être séparée, considérée comme d'un autre clivé, pour ainsi dire, de la démocratie.
Donc, d'une économie marchande.
Non, de l'économie marchande.
Donc, vous seriez d'accord
avec
François Furet, par exemple. Donc, est-ce que vous rendez raison à François Furet, qui, revenu du communisme, avait lui-même considéré que finalement les deux étaient indissociables ?
Vous comprenez, il y a une manière de revenir du communisme en légitimant non seulement le marché, mais le capitalisme tel qu'il est. Alors moi, pardonnez-moi, mais je n'ai jamais été communiste. Plus exactement, j'ai été d'un communisme un peu spécial, c'est-à-dire j'ai été trotskiste, violemment anti-stalinien, violemment contre le Parti communiste, sa discipline, son uniformité. Et d'ailleurs, ça n'a pas duré longtemps. Mais je n'ai pas cette idée que... Si j'ai eu cette idée que le capitalisme, j'ai eu à un moment l'idée que le capitalisme était un moment, que ça, mais aujourd'hui je suis convaincu qu'on ne peut pas désintriquer purement et simplement l'économie de marché et la démocratie sociale et politique.
Je voudrais qu'on revienne un instant sur votre biographie, Claude Lefort. Vous avez rappelé donc que vous avez été trotskiste, on peut dire que vous avez été trotskiste depuis à peu près 1943. En 1948, avec Castoriadis, vous fondez le groupe Socialisme ou Barbarie, un des laboratoires de la pensée politique. Vous analysez notamment le phénomène bureaucratique.
Je ne suis plus trotskiste, mais je suis marxiste.
Vous êtes marxiste, vous diriez ça?
Encore.
Encore.
En 1948, oui.
En 1948, ah oui, pardon, oui.
Non.
En 48. Et donc, arrive à ce moment-là une histoire très importante, un épisode extrêmement important de la vie démocratique même, c'est l'affaire Kravchenko. Est-ce que vous pouvez revenir un instant à la fois sur ce qu'elle a été et ce qu'elle a signifié pour vous ?
Ah ben c'est un épisode effectivement assez extraordinaire car qui donne une image au public d'aujourd'hui. Je ne sais pas si le public d'aujourd'hui peut comprendre ce que signifiait l'affaire Kravchenko, parce que Kravchenko, en deux mots, est un ingénieur important en Union soviétique. Il était fils d'ouvrier de milieu très simple. Il a monté tous les échelons. Il est devenu un très haut fonctionnaire et écœuré par le régime, envoyé en mission aux États-Unis, il décide d'y rester et il écrit un livre, « J'ai choisi la liberté ». Ce livre soulève, c'est là où je parlais de l'opinion aujourd'hui, ce livre soulève à l'époque, disons, un scandale. Et un scandale, attention, pas seulement bien sûr de la part des communistes, c'est la moindre des choses, mais un scandale dans l'intelligentsia de gauche, qui, dans son immense majorité, considère que c'est un traître et que ce qu'il dit, faux est inventé. Et en fait, Kravchenko, je peux vous dire que, indépendamment de cette rencontre d'aujourd'hui, il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai relu Kravchenko. Ce livre n'a rien de théorique. Il n'est pas un procès du régime. Il est son histoire.
Oui, c'est plus puissant qu'un procès du régime, justement. C'est plus puissant qu'un procès.
C'est beaucoup plus puissant, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, il raconte ce qu'il est devenu. Ingénieur, il raconte ses relations avec, bien sûr, le GPU. Il raconte comment ses proches ont été accusés, comment régnait la délation. C'est ça qui est saisissant. C'est-à-dire, c'est la vie sociale, beaucoup plus que, disons, une critique. Il ne fait aucune critique du mode de production, il n'est pas contre le collectivisme, vous voyez, c'est pas ça. Mais il raconte vraiment, par moments, au jour le jour, le drame de la menace perpétuelle qui pèse sur chacun. Sur chacun, d'ailleurs, quelle que soit sa condition.
Et le procès, alors, donc, rappelons le titre du livre.
Je dis au passage, vous interrompant, pardonnez-moi.
Allez-y, je vous en prie.
C'est qu'il a été sans cesse poursuivi par la police soviétique alors qu'il était arrivé aux États-Unis et qu'un jour, ouvrant sa porte, il s'est trouvé en face de deux agents soviétiques, mais qu'il a tiré le premier, car il savait qu'il était susceptible d'être abattu constamment.
Mais l'a-t-il été d'ailleurs, Claude Lefort, finalement, Kravchenko ? On ne sait pas, non ? Comment il est mort ?
Je crois qu'il est mort de sa belle mort, si j'ose dire. Non, il s'est suicidé, Kravchenko. Ouais. Oh là là, vous me posez une question. Excusez-moi.
Pardon, mais
excusez-moi, je ne me souviens pas de sa mort. Ce que je sais, ce que je peux vous dire, comme détail signifiant, c'est qu'il avait, outre cet épisode, qui est quand même extraordinaire, bon, il tire le premier, il a un procès, il est acquitté. Mais en plus, il a eu un enfant aux États-Unis. Et cet enfant, il ne le voit que clandestinement, et cet enfant ne sait pas que c'est son père. Tellement Kravchenko craint que si les Soviétiques apprennent qu'il a un enfant, ils le tuent. C'est quand même une histoire. Et j'ai rencontré l'enfant quand il avait 70 ans, il est venu à Paris.
J'ai choisi la liberté, la vie publique et privée d'un haut fonctionnaire soviétique. C'est le titre du livre de Viktor Andreïevitch Kravchenko, dont le procès, qu'on a appelé le procès du siècle. Donc vous avez été le contemporain de cet épisode majeur de l'histoire démocratique et totalitaire à la fois. Et c'est à cette occasion que votre réflexion, Claude Lefort, s'oriente d'une analyse du totalitarisme qui vous venait vraisemblablement d'une critique de l'Union soviétique vers une construction peut-être plus positive de l'idéal démocratique, en tout cas la réalité démocratique.
Non, je ne crois pas que l'affaire Kravchenko et jouer un rôle. Kravchenko m'a paru absolument révélateur de ce régime que j'avais eu l'occasion d'étudier depuis longtemps, en remontant même très haut, parce qu'il y a eu de grands écrivains français qui ont été en URSS et qui avaient laissé des témoignages pour qui voulait les lire extraordinairement instructifs. Et Kravchenko m'a confirmé absolument dans mes convictions, mais la démocratie, ça n'est pas mon évolution vers la démocratie, elle est venue de ce que, d'une façon générale, alors vous me direz que Kravchenko fait partie de cette évolution, c'est vrai, elle est venue de ce que j'ai pris conscience, de ce qu'était la cohésion de ce régime totalitaire, de ce qu'était, pas seulement sa cohésion, bien sûr, qu'il est, mais de cette capacité d'étouffer toutes les libertés, de contrôler à travers, pas seulement des agents de l'extérieur, mais de contrôler la vie quotidienne des gens, et que ça m'a renvoyé à la démocratie comme pas seulement comme régime, là encore, mais comme une société de liberté.
Encore une question, Claude Lefort. Encore une question, parce qu'elle est importante. On ne s'éloigne pas vraiment de la démocratie, d'ailleurs. Je voudrais juste, au nom du sens de la nuance, qui est ce que les professeurs doivent enseigner, quelle différence faites-vous, au titre de ce que vous dites du totalitarisme, entre totalitarisme d'un côté et dictature de l'autre ?
C'est une différence...
Parce qu'en général, les termes sont employés de façon tout à fait synonyme.
C'est une différence essentielle, car ce qu'on appelle la dictature, ce qu'on appelait auparavant la tyrannie, c'est un pouvoir qui s'abat d'en haut, avec bien sûr appuyé sur une couche sociale, mais c'est un pouvoir qui s'abat d'en haut sur le peuple dans toutes ses parties. Le totalitarisme, c'est pas ça. Si j'emploie, je ne suis pas le premier à avoir employé le terme de totalitarisme, Hannah Arendt en a parlé, d'autres déjà.
Non, mais peut-être à lui avoir donné toute son ampleur de totalité, précisément.
Mais c'est que tout communique avec tout. Il n'y a pas une distinction du social et du politique. Il n'y a pas une distinction du politique et de l'économique. Et que le totalitarisme constitue... non pas quelque fut, disons, la puissance de Staline, qui était extraordinaire. Néanmoins, il constitue un univers dans lequel rien n'échappe à, disons, l'idéologie du régime. Voilà.
L'onction populaire des gouvernants est pour nous la principale caractéristique d'un régime démocratique. L'idée que le peuple est la source légitime du pouvoir s'est imposée avec la force de l'évidence. Nul ne songerait à la contester, ni même à la réfléchir. La souveraineté ne saurait se partager, résumait au XIXe siècle un grand républicain français. Il faut choisir entre le principe électif et le principe héréditaire. Il faut que l'autorité se légitime, ou par la volonté librement exprimée de tous, ou par la volonté supposée de Dieu, le peuple ou le pape, choisissez. Répondre à une telle question, dispensée de toute argumentation, nous en sommes toujours restés là. Cet énoncé recouvre pourtant une approximation d'importance, l'assimilation pratique de la volonté générale à l'expression majoritaire. Bonjour Pierre Rosanvallon.
Bonjour,
bienvenue à vous aussi au Nouveau Chemin de la Connaissance. C'est une joie d'être en votre compagnie, Claude Lefort et Pierre Rosanvallon, à la Maison de la Culture de Grenoble, pour y parler de rénovation démocratique. Je rappelle que la République des idées est à l'origine de ces rencontres, de ces trois jours de rencontres dont France Culture est partenaire. Donc ce partenariat que nous avons noué et qui nous a valu au Nouveau Chemin de réfléchir pendant une semaine sur la question démocratique. Le petit texte que je viens de lire sont les premières lignes de la légitimité démocratique. Hein, impartialité, réflexivité, proximité, ce sont les trois mamelles, si j'ose dire, de la légitimité démocratique, manifestement, selon vous. Je voudrais commencer, on va parler un peu de votre livre, je voudrais commencer par cette différence que vous faites entre la volonté générale et l'expression majoritaire. En somme, la différence qu'il faut faire peut-être entre l'unanimisme et ce que Tocqueville aurait pu appeler à ce titre d'ailleurs la dictature de la majorité. Pierre Rosanvallon.
Eh bien, il y a deux choses différentes. Le principe de légitimité dans une société, démocratique, c'est une société qui repose sur elle-même. C'est une société qui est constituée par les citoyens. C'est une société qui est organisée par leur volonté commune. Mais que veut dire la notion même de volonté commune, de volonté générale ? Elle veut bien dire qu'il y a le fait d'une participation de tous, qu'il y a en tout cas comme horizon régulateur l'idée que chacun ait son mot et sa place et sa participation à cette constitution de la société. Mais dans les faits, on sait bien que pour décider, eh bien, on ne peut pas se contenter de cet idéal d'unanimité. La décision et la majorité, pardon, est le seul principe réaliste de décision. D'ailleurs, chose importante, quand est-ce qu'on a inventé la règle de majorité ? La règle de majorité n'a pas été inventée pour légitimer des décisions collectives. La règle de majorité était inventée dans des très petits groupes dans lesquels il y avait de l'indétermination. Donc, par exemple, dans un convent de moines, dans un groupe de grands électeurs dans l'Empire Saint-Romain germanique. Eh bien là, quand il y avait une indétermination, il fallait bien trancher. Et bien pour trancher, d'ailleurs, le mot majorité n'était pas employé à l'époque, on employait le mot la pluralité. C'est-à-dire, un principe simple, c'est le plus grand nombre qui fait la décision. Mais la démocratie vit du principe majoritaire parce qu'elle doit prendre des décisions. Mais la démocratie, c'est un régime de la légitimité sociale. Principe de justification et un principe de décision.
Alors on va y venir, Pierre Rosanvallon, mais est-ce que très concrètement, pour distinguer la volonté générale de la volonté majoritaire, on pourrait par exemple, on est ici donc à la Maison de la Culture de Grenoble, il y a du monde qui est venu nous écouter, il y a donc une foule. Cette foule est composée d'individus dont les opinions politiques sont certainement différentes, du moins on peut l'espérer. Néanmoins, on peut aussi présumer que tout le monde, d'ailleurs c'est la raison vraisemblablement de leur présence ici, que tout le monde s'entendrait à dire que la démocratie est le régime à l'intérieur duquel il convient de vivre. En somme, une foule d'individus d'accord entre eux pour ne pas être d'accord.
Ça n'est pas si simple, parce que cette définition que vous donnez, elle a été dans l'histoire, elle n'a pas été acceptée. Parce que dans l'histoire, très souvent, ce qui a formé les régimes démocratiques, disons, c'est l'idée représentative et c'est le principe parlementaire. Et ce principe parlementaire, il repose justement sur la majorité simple. Ce à quoi vous faites référence, c'est que doit exister dans toute société deux registres distincts de légitimation. Un registre de légitimation de la discussion, disons, qui doit admettre, bien sûr, la division, le conflit, mais en même temps, un registre de fixation des règles générales qui doit, lui, recueillir une forme de consensus de tous. Mais ce ne sont pas les mêmes institutions. Qu'est-ce qui organise dans une démocratie la règle du jeu ? C'est une constitution. Et qu'est-ce qui organise, au contraire, je dirais,
le fait de trancher entre des opinions, ce sont les élections. Donc il y a des institutions pour trancher les conflits et reconnaître ces conflits comme structurants, tout à fait d'accord avec Lefort là-dessus, et puis il y a des institutions, des règles du jeu. Mais il faut faire vivre les deux en même temps. Or, une tendance historique des démocraties, c'est d'avoir donné la préférence à la logique partisane sur la logique des règles du jeu. Et c'est pour cela qu'il y a bien des démocrates, grosso modo, qui voudraient que les constitutions obéissent aux mêmes règles majoritaires que, simplement, le pouvoir législatif.
De là, peut-être, le malentendu sur le traité constitutionnel européen, dont on disait qu'il était libéral.
Surtout, je crois que le problème du traité constitutionnel européen était différent. C'est qu'il ne s'agissait pas d'une constitution. Il s'agissait d'un traité, tout simplement, qui organisait des règles générales ou des pouvoirs publics. Mais ça n'était pas une constitution au sens où il ne définissait pas des règles politiques et démocratiques du jeu.
À passer ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges sans être un saint ni un salaud. Je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches. Un doigt de Scott et un jean, fils. Et tout le reste, je m'en fiche. Ils ont voté, puis après. La mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. On s'étend, on ne voit pas l'air, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils ont voté et puis après.
Claude Lefort et Pierre Rosanvallon sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi pour clore une semaine sur la rénovation démocratique. On a entendu quelques mesures de Léo Ferré. Ils ont voté, étrange chanson dans la bouche d'un anarchiste professionnel et merveilleux néanmoins. Pierre Rosanvallon, vous essayez d'envisager la démocratie au-delà des procédures électorales représentatives. On a bien compris que pour vous, ne pas le faire serait finalement réduire la démocratie presque au despotisme d'un camp sur l'autre, en somme, et surtout infléchir les institutions dans le sens d'une opinion politique, soumettre finalement les institutions à l'opinion. Est-ce que ce que vous appelez la rénovation démocratique passe tout simplement par, l'écart, la séparation de ces deux ensembles, de ces deux reposoirs de la démocratie, l'institution d'un côté et l'élection, le principe d'alternance?
Oui, mais il faut reconnaître que cette séparation, elle repose aussi sur quelque chose d'encore plus fondamental. C'est la reconnaissance du conflit et la nécessité du consensus. Il y a ces deux éléments distincts dans la société. Le fait qu'il y ait des partis qui s'affrontent, le fait qu'il faille trancher entre des intérêts différents est quelque chose de normal et de positif. Et il y a une critique des partis politiques. Il y a une critique de la politique partisane qui me semble nulle et non avenue. Il est bon qu'il y ait un côté partisan. Il est bon qu'il faille trancher. Et d'ailleurs, en grec, le mot « kratein » veut bien dire quand un camp l'emporte sur l'autre. Et c'est d'ailleurs pour cela que le mot « démocratie » a toujours été considéré comme ambigu en Grèce et même un peu dangereux. La définition idyllique, c'est le peuple en général uni, gouverne en général, pas de problème. La réalité, c'est le démos, le bas peuple, qui l'emporte sur les autres. Donc c'est une logique du conflit d'intérêts. Mais ça, c'est une réalité de la démocratie, parce que nous vivons dans des sociétés divisées, dans lesquelles les intérêts ne sont pas les mêmes. Et il faut trancher entre le riche et le pauvre. Il faut trancher sur les impôts. Il faut trancher sur quantité de questions. Donc là, la logique partisane a sa raison d'être, et elle est même fondamentale. Mais à côté de cette logique partisane, il faut aussi sauver un espace pour les règles du jeu, sauver un espace pour des formes d'intérêts communs qui soit supérieur à cela. Sinon, à ce moment-là, cela veut dire qu'on irait tout simplement, à chaque fois qu'il y a un conflit, vers une logique de séparatisme.
Claude Lefort, juste une question.
Je commente ce que dit Pierre Rosanvallon. Ce qu'il y a, c'est que le conflit lui-même, il évolue. Ses résultats, pour une part, il passe dans un changement du législatif. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a une dimension du droit dans la démocratie qui est qui est essentielle, aussi essentielle que celle de, quand on dit le peuple, mais le peuple, qu'est-ce que c'est que le peuple? Déjà, il faut juridiquement le constituer, le peuple, mais c'est à tous les niveaux. Je crois que dans son dernier livre en particulier, Rosan Vallon montre à quel point il y a aujourd'hui une évolution du droit, une recherche pour trouver, étant donné les nouveaux déséquilibres sociaux, pour trouver des bornes. Non, il ne s'agit pas de bornes. Pour trouver, disons, des articulations fixes. C'est ça, le droit. Donc le droit, il est lui-même, il est en évolution. Et il est en évolution. On ne peut pas, encore une fois, séparer ce qui est de l'ordre proprement parlé des revendications sociales. Elles passent dans le droit. Vous voyez ? Donc notre société, il se fait en ce moment même un travail, disons, considérable. Quelquefois, d'ailleurs, il y a des décisions qui sont prises. Aujourd'hui, je veux dire, dans le régime que nous connaissons en France, qui, à mes yeux, sont violent l'esprit du droit.
Viole l'esprit du droit. Vous pensez à quoi, par exemple, Pierre Rosan Vallon ?
Dans la démocratie n'est pas simplement une machine à prendre des décisions. Or, une définition simpliste de la démocratie consiste à considérer que la démocratie, c'est le régime de la prise de décision selon le mode du suffrage à la pluralité. Non, c'est aussi le régime pour construire des règles. Et c'est toujours cette balance entre des règles et des décisions qui est fondamentale dans la vie de la démocratie. Or, effectivement, il y a un nombre de personnes qui ont une conception de la démocratie, je dirais, comme simplement un régime de la décision, qui n'acceptent pas vraiment qu'elle devienne un régime des règles. Prenez cette phrase fameuse d'un socialiste au moment, après l'élection du président de la République en 1981, disant à l'occasion d'un débat sur le rôle du Conseil constitutionnel, vous avez juridiquement tort, parce que vous êtes politiquement minoritaire. Et donc, c'est imposer une règle de décision comme un principe de jugement d'une règle de droit. C'est quand même ça, un écart qui est absolument fondamental. Et je crois qu'il n'y a pas de démocratie si l'on ne décline pas les registres de la démocratie. Il y a le registre de la décision politique, qui est forcément celui de la majorité. Il y a le registre parlementaire, mais il y a le registre constitutionnel, il y a aussi le registre du service public. Je pense que la démocratie ne peut être approchée, parce que c'est un régime que personne ne peut rêver d'accomplir généralement. Personne n'a vu le peuple dans son naissance, assemblée, décider, vivre de façon en symbiose permanente.
On l'a vu sous Périclès pendant 30 ans.
Mais... Non. Non, on n'a pas vu ce peuple-là, parce que même sous Périclès, il y avait justement une dualité très forte entre des institutions de contrôle et des institutions de délibération. Même sous Périclès, il y avait une distinction considérable entre des institutions législatives et des institutions exécutives. Donc cette vision d'un peuple uni qui serait en permanence sur le forum à prendre des décisions comme un corps social, seul un certain fantasme de la société une et du pouvoir un a essayé de le faire vivre sous des espèces que nous avons pu appeler tout simplement celles du totalitarisme. Or, il y a deux stratégies pour réaliser la démocratie. Soit on poursuit ce fantasme de l'un, ce fantasme d'un pouvoir société qui incarnerait parfaitement l'idéal et qui en serait la vérité, soit on essaie par petites touches de l'approcher par des formulations différentes.
On sent ici, Pierre Rosan Vallon, à quel point vous êtes un lecteur de Claude Lefort, puisque Claude Lefort lui-même appelait, parlant je crois de l'Union soviétique, vous appeliez le système soviétique, vous le désignez comme le peuple un. Vous parliez d'un processus d'identification entre le pouvoir et la société, un processus d'homogénéisation de l'espace social, un processus de clôture de la société et du pouvoir qui s'enchaîne pour constituer le système totalitaire. Ce qui est intéressant là, on en vient un instant sur cette question justement du totalitarisme, et pour montrer à quel point d'ailleurs la démocratie le totalitarisme ont partie liée en un sens, c'est que bien souvent un totalitarisme peut surgir d'un désir démocratique effréné, d'une forme d'hubris démocratique qui en viendrait à congédier finalement les structures partisanes au profit de l'unanimité et de la transparence. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça,
oui,
Claude
non,
Lefort?
Je ne suis pas d'accord. Non, non, il ne s'agit pas du bruit démocratique, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus trivial. Il s'agit d'un gouvernement qui, porté certes par une majorité, est tenté de... et la tentation de décider de tout sans consultation démocratique, c'est-à-dire, par exemple, au niveau de la justice, eh bien, on va passer par-dessus la tête des magistrats. Au niveau de l'université, on va passer par-dessus la tête des professeurs, des enseignants d'une façon générale.
Je parlais de l'Union soviétique, hein, moi.
Non, mais... Je n'avais pas compris qu'on parlait de l'Union soviétique.
L'idée étant que...
Il faut comprendre, monsieur, l'autoritarisme à l'intérieur de la démocratie. Alors, je ne veux nullement dire que la démocratie est prête à dégénérer en totalitarisme sous prétexte que, disons, une faction et un gouvernement, n'est-ce pas, ont, disons, un autoritarisme, mais je n'en mesure pas moins la menace qui est très importante si il y a un arbitraire et si cesse la négociation entre les, disons, les milieux intéressés, le milieu de l'université, le milieu de la justice, etc. Et si on prend des mesures comme ça qui passent sur la tête des gens.
Pierre Rosanvallon, dans votre livre, vous évoquez le fait que le système actuel engendre trop d'oubliés de la représentation. On ne vous sent pas ami du scrutin majoritaire, avec beaucoup d'arguments d'ailleurs en la défaveur
du scrutin majoritaire comme forme d'expression unique.
On est d'accord.
De la démocratie.
On est d'accord.
Le scrutin majoritaire, il est indispensable, incontournable, salutaire.
Donc j'y viens. Comment fait-on pour le maintenir, c'est-à-dire le réformer? Comment fait-on? Comment s'y prend-on? Que proposez-vous?
Eh bien, il faut enrichir la démocratie. Il faut développer la démocratie. Il faut le développer de deux façons. D'abord, en essayant d'améliorer, très simplement, les procédures électorales et représentatives. Trouver des façons d'inclure dans le système représentatif ce, justement, que Loïc Blondiaux, qui était votre invité hier, je crois, appelle les oubliés de la représentation. Il faut trouver les moyens aussi de trouver des formes de prise de parole sociale qui rendent présents dans la société les problèmes des populations. Parce que la représentation, c'est bien ça. C'est rendre présent, donner une voix à ceux qui n'en ont pas. La représentation, ça n'est pas simplement la délégation.
Mais comment
la représentation, ça n'est pas simplement le mandat.
Mais comment, à partir, Pierre Rosanvallon, comment à partir d'excellents principes comme les vôtres, ne pas verser dans le poujadisme qui consiste à se devenir, se transformer en tribun de la plèbe, qui dit je suis le porte-parole des sans-voix, je suis celui qui prend la parole des exclus,
alors,
si
vous appelez poujadisme le fait que ceux qui sont des sans-voix et des exclus et accès à la parole publique.
Non, je
c'est
ne dis
une
pas
définition
ça.
Du poujadisme.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit
peut-être.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le propre. J'ai dit que le propre de tout poujadisme, c'était de se présenter précisément comme le tribun ou le tribunal des sans voix ou le moment où les sans voix reprenaient enfin la parole. Aucun poujadisme n'a échappé à cette logique-là.
Non, l'essence du poujadisme, ça n'est pas la prise de parole des exclus. L'essence.
Non, c'est la revendication de cette prise de parole. C'est
non,
pas la même chose.
Non, c'est pas tout à fait ça. L'essence du poujadisme, c'est l'opposition du peuple en bloc et des petites élites manipulatrices et malfaisantes. L'essence du poujadisme, c'est de dire que tout le malheur social vient d'une élite qu'il suffirait de congédier ou de discréditer pour revoir vivre la société dans sa tranquillité. Donc le problème du poujadisme, c'est justement, je dirais, une analyse de la société qui ne correspond pas à la réalité de ses divisions. L'illusion du poujadisme, c'est de faire comme si le peuple était un ou serait un s'il était débarrassé de ses élites malfaisantes ou pour certains aussi de ses minorités étrangères.
Claude Lefort.
Si je peux me permettre d'ajouter un mot, je crois que c'est une définition généreuse du poujadisme. Parce que le poujadisme, qu'est-ce que c'est? C'est la mobilisation de tous les mécontentements, quels qu'ils soient. C'est chercher dans les bas-fonds de la société, quand je dis les bas-fonds, ça ne veut pas dire les plus pauvres, hein, c'est chercher mobiliser tous les égoïsmes, et ça n'a aucune consistance, ça n'a pas de programme. Mais c'est toujours là. C'est toujours effervescent, ça peut du moins redevenir effervescent, parce que c'est, on ne peut pas dire que ça n'est pas engendré par la démocratie. La démocratie engendre dans ses, vous voyez, dans une partie de son étendue, elle engendre la jalousie, l'envie, à la fois la haine des riches et la haine et le mépris des pauvres. Le poujadisme, c'est ça. On ne peut pas en trouver une théorie, l'élever au niveau d'une théorie.
Pierre-Rosan Vallon et Claude Lefort sont les invités des Nouveaux Chemins de la Connaissance ce vendredi, au terme d'une semaine consacrée à la rénovation démocratique. Un titre d'ailleurs qu'on emprunte à la République des idées, puisque c'est le thème du colloque qui a lieu à Grenoble, à la Maison de la Culture de Grenoble, les 8, 9 et 10 mai. Nous sommes le 8 mai aujourd'hui et nous ne chômons pas, nous sommes en direct avec vous deux, donc Pierre-Rosan Vallon et Claude Lefort. Pierre-Rosan Vallon, je voudrais qu'on revienne un instant sur la façon dont la démocratie a vocation à pallier ses failles, c'est-à-dire à combler ses défauts qui sont de laisser sur le côté finalement ceux que vous appelez et que Loïc Blondiaux appelle également les oubliés de la représentation. Vous parlez d'une réforme du mode de scrutin, vous parlez d'inventer des formes non électorales de représentation, expliquant en somme que le principe majoritaire ne suffit pas à fonder les institutions démocratiques, et vous évoquez la nécessité de faire vivre une démocratie plus permanente. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il y a une solution de continuité ou des solutions de continuité à l'intérieur d'un système démocratique ?
Écoutez, la démocratie électorale parlementaire, disons, elle est intermittente, puisque les élections n'ont lieu que tous les 4 ou 5 ans selon les pays. Mais en même temps, il y a une demande sociale.
Mais la démocratie n'est pas réductible à ces rendez-vous démocratiques
que
sont les élections.
Non, mais qu'est-ce qu'il y a entre ces rendez-vous démocratiques, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a du mouvement social, il y a de la vie syndicale, il y a de la vie juridique, il y a de l'opinion. Et donc le problème de la démocratie, c'est de faire vivre toutes ces formes d'organisation, de manifestation de la vie sociale et de la vie civile. Alors pendant très longtemps, et ça, ça a été indissociable de l'histoire des démocraties, on a eu une autre grande force. Ce sont les représentants sociaux, si je puis dire. C'était la force syndicale, qui était une force de prise de parole, qui est une force de représentation, qui est une force d'expression. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, je dirais, ce deuxième pilier de la représentation, qui était la représentation sociale, s'est notablement affaissé. Et donc, on a en quelque sorte un éparpillement. D'un côté, on a la démocratie intermittente des élections, et de l'autre côté, on a la démocratie diffuse, disons, de l'opinion, ou la démocratie diffuse, que représente bien, je dirais, le monde de la blogosphère sur Internet. Et donc, entre cette dissémination et cette polarisation, il faut trouver des formes de parole intermédiaires. En France même, il y a des institutions qui correspondent en partie à cela. Actuellement, c'est peut-être quelque chose qui apparaît secondaire, mais il y a une réforme en cours du Conseil économique et social, pour en faire non pas simplement justement l'ancien représentant, je dirais, du monde économique, des syndicats et des entreprises, mais en faire des représentants de la société civile en général. Et il y a aussi, c'est extrêmement important, la nécessité de donner un rôle, sinon constitutionnel, mais de donner un rôle public, disons, à un certain nombre d'ONG, à un certain nombre d'organisations de la société civile. Donc, il faut remplir, en quelque sorte, diversifier la représentation. Il faut que les voix de la société trouvent une pluralisation de leurs formes d'expression. Et c'est d'autant plus important qu'il y a aussi des problèmes pour lesquels personne ne peut avoir de représentant. Comment voulez-vous représenter les questions du futur sur le très long terme ? La seule façon de représenter le futur sur le très long terme, c'est la connaissance, par exemple. Si on sait que les problèmes de la couche d'ozone qui vont se poser dans 20 siècles sont de telle nature, c'est la connaissance de ces problèmes qui devient une forme de représentation. Donc vous voyez, entre le monde de la connaissance, le monde de l'opinion, le monde de la délégation et le monde de la voix sociale, il faut trouver les moyens de pluraliser, je dirais, ces formes de représentation. Et de l'autre côté, il faut aussi pluraliser les institutions de représentation ou d'expression de l'intérêt général. Aujourd'hui, l'intérêt général, c'est l'intérêt majoritaire. Mais il y a aussi cette tradition du service public. Il faut, d'un certain point de vue, la faire revivre. Et ça, c'est au cœur du conflit actuel. Quand des professeurs disent « N'oubliez pas que la loi de 1896 a défini le corps enseignant comme, en quelque sorte, le garant, le représentant de l'intérêt général dans l'éducation », si beaucoup de professeurs, y compris fort modérés dans leurs opinions politiques, se sont élevés contre la réforme, c'est parce que justement ils ont le sentiment qu'on les dépossède de ce sens de la responsabilité d'incarner en quelque sorte un intérêt pour la collectivité, un service public. Mais ça n'est qu'une façon. On voit aussi qu'il y a d'autres institutions de l'intérêt général. Aujourd'hui, quand on vit dans une société dans laquelle on vient de décider, en France, une modification des conditions de nomination des présidents de l'audiovisuel. Mais avant, ils étaient nommés dans d'autres conditions. On peut dire que cela appartient à ce que, en tout cas, les Français semblaient tous, les sondages le montrent, ressentir comme devant être hors de la politique partisane. Or, on le fait à nouveau rentrer dans la politique partisane au prétexte que c'est simplement, je dirais, la bonne définition de l'intérêt général et de la responsabilité.
Il est certain, non, que nous ne citerons pas dans cette émission, car nous sommes en période électorale et que le CSA va nous tirer dessus. Je voudrais quand même, Claude Lefort et Pierre Rosanvallon, avoir votre opinion sur un texte, puisque depuis le début de cette semaine, dans les nouveaux chemins de la connaissance, on est accompagné par Tocqueville, dont les textes nous accompagnent, dont les réflexions démocratiques nous accompagnent, et je voudrais avoir votre sentiment sur ce texte-ci. Tocqueville dit ceci: « À mesure que les citoyens deviennent plus égaux et plus semblables, le penchant de chacun à croire aveuglément un certain homme ou une certaine classe diminue. La disposition à en croire la masse augmente et c'est de plus en plus l'opinion qui mène le monde. Non seulement l'opinion commune est le seul guide qui reste à la raison individuelle chez les peuples démocratiques, mais elle a chez ces peuples une puissance infiniment plus grande que chez nul autre. Dans les temps d'égalité, les hommes n'ont aucune foi les uns dans les autres à cause de leur similitude, mais cette même similitude leur donne une confiance presque illimitée dans le jugement du public, car il ne leur paraît pas vraisemblable qu'ayant tous des lumières pareilles, la vérité ne se rencontre pas du côté du plus grand nombre. » Claude Lefort, qu'en pensez-vous?
D'abord, il me semble que vous avez emprunté ça à un auteur célèbre.
Oui, c'est à Tocqueville, hein, absolument, que je l'ai emprunté. Vous l'avez reconnu. Et donc,
Tocqueville?
Oui, Tocqueville, mais...
Mais il y a un public, il faut quand même nommer l'homme qui a écrit cela et savoir qu'il l'a écrit au 19e siècle.
Il a écrit ça dans les années 30, 1830.
Exactement.
1830. Mais alors ce diagnostic de Tocqueville sur l'opinion qui mène le monde, la façon dont l'opinion finalement s'empare, tient lieu non pas seulement de législateur, mais presque d'alpha et d'oméga de la vie démocratique. Ce péril que représente ce que Tocqueville appelle la tyrannie de la majorité. Claude Lefort.
Écoutez, Tocqueville est un vrai penseur et il a mis le doigt, sans aucun doute, sur certains dangers de la démocratie. Cela dit, Tocqueville n'imagine pas une société mobilisée. Tout ce que vient de dire Rosanvallon, et qui est vraiment caractéristique de ses travaux, l'idée d'un espace social, hein, on est, d'un espace qui n'a pas un pouvoir en surplomb. Bon, c'est pas du tout Tocqueville. Tocqueville ne voit d'une certaine façon que d'un côté des individus et d'un autre côté cette somme d'individus, elle nourrit une opinion qui devient une opinion uniforme. Il touche à quelque chose, c'est sûr, mais enfin, c'est extrêmement limité. Tocqueville Tocqueville demeure quelqu'un qui n'a pas compris que la démocratie, ce que nous essayons de dire l'un et l'autre, est une forme de société et non pas seulement ce régime qu'il critique.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux, car nous sommes également limités dans le temps. Un grand merci donc à tous les deux, Claude Lefort, Pierre Rosanvallon, avec vous s'achève cette semaine sur la rénovation démocratique, ou s'inachève cette semaine sur la révolution démocratique, la rénovation démocratique, bon lapsus. Et avec cette émission commence le colloque et les trois jours de débat qu'organise la République des idées depuis la Maison de la Culture de Grenoble. Claude Lefort, de vous, je voudrais citer votre ouvrage monumental sur Machiavel, intitulé de mémoire « Le travail de l'œuvre Machiavel », disponible chez Gallimard dans la collection Tell, une bible, un viatique pour toute lecture de l'œuvre du Florentin, auquel les nouveaux chemins finiront bien par consacrer une semaine. Pierre Rosanvallon, je rappelle que vous êtes l'auteur, entre autres, de « La légitimité démocratique » paru au Seuil en 2008 et que vous êtes l'animateur de la République des idées et donc à l'origine de ce colloque. Enfin, je rappelle que toutes les émissions de cette semaine sont disponibles comme toujours sur Internet à la page des nouveaux chemins de la connaissance, où vous trouverez également toutes ces indications bibliographiques. La semaine prochaine, c'est de l'absurde que nous parlerons. L'absurde est-il dans la chose même ou bien dans le silence qui répond à la demande de sens ? De quoi parle-t-on quand on parle d'absurde ? Y a-t-il un sens à parler d'absurde ? Autant de questions et bien d'autres qu'on se posera autour d'Albert Camus, Ionesco, Kafka, Beckett et Boris Vian. Rendez-vous lundi prochain, 17h, dans les nouveaux chemins de la connaissance. À la réalisation aujourd'hui, François Connac. Un grand merci à la Maison de la Culture de Grenoble pour son accueil. Au travail souterrain, et applaudissez-les, Adèle Van Rett, Jennifer Murzo et Igor Kortelitsa. Aux vacances, Geneviève Méric, partie depuis 15 jours et dont le retour imminent est à tous égards une source de joie pour toute l'équipe des Nouveaux Chemins. Enfin donc, merci à vous, cher public, d'avoir assisté si nombreux à cette émission qui était en direct de Grenoble. France Culture, 17h50, tout de suite, Albert Jacquard. Merci à tous.
Nous avons commencé notre recherche des ambiguïtés camouflé par des mots apparemment clairs, en nous limitant à des termes abstraits, introduits à propos des nombres. Passons aujourd'hui à un domaine tout différent, situé au cœur de notre description du monde réel. Pour cela, nous allons explorer un concept introduit par la biologie avec le mot « vie ». Nous sommes habitués à classer ce qui nous entoure en deux catégories, ce qui est inanimé d'un côté et ce qui est vivant de l'autre. Quelques difficultés apparaissent à la frontière entre ces deux catégories, mais elles semblaient, jusqu'il y a peu de temps, ne pas remettre en cause l'essentiel de ce classement. Ainsi, durant l'année 1995, il y a donc 13 ans, des scientifiques américains ont annoncé qu'ils avaient, je cite, « redonné vie à des bactéries qui avaient été piégées dans un milieu qui les bloquait » ou qui bloquaient tout leur métabolisme, c'est-à-dire qu'elles étaient restées comme mortes. L'intervention du laboratoire avait fait repartir les processus qui avaient été provisoirement arrêtés pendant des milliers ou des millions d'années. Peut-on, si cette relation est exacte, prétendre qu'elles avaient été, ces bactéries, ressuscitées en passant de la mort à la vie ? Répondre nécessite de définir ces deux mots. Tout dépend de la voie que nous choisissons pour ces définitions. Ou bien nous nous intéressons aux performances des objets que nous classons, ou bien nous nous intéressons à leur structure, physique ou chimique. La première voie définit comme vivants ceux qui sont capables de performances assez extraordinaires, telles que la digestion, la respiration et surtout la reproduction. La seconde voie lie la vie non plus à des performances, mais à la possession de substances qui sont à la base de ces performances. En premier lieu, les molécules de la famille de l'ADN, qui est maintenant bien connue. Le cas des virus aboutit à deux regards différents. Ils sont constitués d'une telle molécule, ADN, entourée d'une enveloppe de protéines. Elles ne sont le siège d'aucun métabolisme. Donc on peut dire que, vu en fonction de leur performance, eh bien, ils sont morts. Mais si on les introduit dans une cellule, ils peuvent, par leur seule présence, provoquer le suicide de cette cellule. Elle utilise les matériaux qui la constituaient pour réaliser plusieurs dizaines de copies du virus initial. Celui-ci est resté passif, Doit-on le considérer comme inanimé ou comme vivant? Le choix est libre. Bien sûr, il a eu une performance extraordinaire. Il est vivant, mais il n'a eu aucun métabolisme. Il est mort. Il est les deux à la fois.
À retrouver sur Radio France.
Aujourd'hui sur France Bleu à 12h30.
France Bleu Midi.
Élodie Suigo et Denis Farou recevront Evangélie, nouvelle venue dans la pièce à succès Le Clan des Divorcés au théâtre Le Palace à Paris.
Plus d'infos.
FranceBleu.com.
Aujourd'hui sur France Info à 18h45.
Carrefour d'infos.
Interview.
Reportage.
Questions-réponses.
Les chroniqueurs de France Info feront une analyse approfondie pour éclaircir l'actualité.
En savoir plus, France-info.com.
Et aujourd'hui sur France Culture, dès 19h15,
le rendez-vous.
En direct du centre Georges Pompidou, Laurent Goumard recevra la jeune star montante de la pop Slimy pour une interview et des titres en live.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Écoutez, réécoutez et podcastez le rendez-vous sur franceculture.com.
Radio France.
Radio France.
On ne se quitte plus.
Vous êtes sur France Culture, c'est l'heure maintenant de retrouver le nouveau rendez-vous de Laurent Goumard.